Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Alia Tovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Cette semaine, l'économie touche le fond, ou plutôt les fonds, ces instruments financiers qui collectent de l'épargne et la réinvestissent dans les entreprises ou les États. Des acteurs devenus des superpuissances avec la financiarisation de l'économie amorcée dans les années 70. Depuis, la responsabilité des fonds spéculatifs dans la crise de 2008 a été largement pointée du doigt. Une crise qui a également mis en lumière le pouvoir des fonds souverains. Ces réserves créées par les États, en particulier les pays du Golfe, ont alors secouru de nombreuses banques européennes et américaines au bord du gouffre. Mais quel est le prix politique de cet afflux de capitaux ? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de l'influence économique et géopolitique des fonds souverains en compagnie de Marie Brière, responsable du Centre de recherche pour les investisseurs chez Amundi, une société française de gestion d'actifs, et professeur associé à l'Université Paris-Dauphine, en compagnie également de Renaud Bouchard, doctorant à l'EHESS, au Centre d'études des modes d'industrialisation. À 14h50, ce sera l'heure du journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Marie Brière et René Bouchard.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu dans nos studios en ce jour férié. Alors c'est avec vous que nous commençons notre série sur les fonds d'investissement. Quelle définition est-ce que vous donneriez d'abord l'un et l'autre de ces fonds ? On commence avec vous Marie Brière.
Donc un fonds d'investissement, c'est un fonds qui collecte de l'épargne et qui est chargé de le placer sur les marchés financiers. Alors l'émission d'aujourd'hui porte sur les fonds souverains, mais donc les fonds souverains appartiennent à la grande famille des fonds d'investissement, hein, qui comporte également les fonds de pension, les fonds mutuels, hein, donc les asset managers, les hedge funds, et on pourrait en citer d'autres.
Donc les fonds souverains sont des fonds d'investissement parmi d'autres, Renaud Bouchard.
Oui, mais alors essentiellement constitué à l'origine et encore dans la version générale du grand public sur les ressources naturelles que sont les hydrocarbures, que ce sont le gaz, le pétrole par exemple. Mais on assiste maintenant à un nouveau type de fonds souverains qui, eux, ont réussi à constituer leur fortune et leurs avoirs grâce à l'ingénierie financière. Je pense par exemple au fonds de Singapour, par exemple GIC de Singapour ou le fonds Temasek. Vous voyez, il n'y a pas de pétrole à Singapour, mais on a des idées.
Alors on va voir comment se constituent les différents fonds souverains. Mais ce qu'il faut peut-être d'abord expliquer, Marie Brière, c'est que l'objectif d'un fonds souverain, qui est donc créé par un État, c'est avant tout de faire fructifier des richesses excédentaires.
Oui, tout à fait. Donc en fait, le rôle d'un fonds souverain, c'est de placer ses actifs financiers sur les marchés. Donc des actifs qui sont en fait financés par les excédents de l'activité économique, hein, comme Renaud Bouchard l'a souligné. Donc ça peut être des revenus des exportations de matières premières, mais ça peut être aussi des excédents commerciaux, parfois plus rarement les résultats de privatisation. Et donc l'objectif du placement de ces fonds, c'est... Alors peuvent être multiples, ça peut être à court terme de stabiliser le budget, hein, et de protéger l'économie de la volatilité excessive des revenus des exportations. Hein, typiquement un fonds pétrolier qui tire ses ressources des matières premières va voir ses revenus affectés très fortement par l'évolution des prix des matières premières, par exemple du pétrole. Donc on va avoir ce rôle de stabilisateur du budget pour éviter que les dépenses budgétaires ne fluctuent trop fortement dans le temps. Et puis on voit aussi des objectifs à plus long terme, hein, partagés par certains fonds. J'en citerai quatre. Le premier, ça va être de diversifier les revenus issus des matières premières. Donc l'idée, c'est de transformer un revenu épuisable et non diversifié, donc par exemple la manne pétrolière, en un portefeuille de placement diversifié qui peut devenir une source de revenus à long terme une fois les ressources épuisées. Il y a un objectif d'épargne pour financer les dépenses futures, par exemple les retraites, donc un objectif de transmission intergénérationnelle du patrimoine. Ça peut être pour financer le développement économique et social du pays, dans ce cas-là avec des investissements domestiques.
Alors on ne va pas aller trop vite parce qu'il y a effectivement énormément de rôles que peuvent jouer ces fonds souverains. Mais d'abord, on va peut-être revenir aux origines de ces fonds. Le premier pays à créer un fonds d'État en 1953, ça a été le Koweït.
Koweït, c'était la Phénicie du Moyen-Orient. Sur leur felouk, les marins koweïtiens ont fait le tour de l'Afrique. Seules activités, la pêche à l'huître perlière et le commerce. Car la principauté ne produisait rien, elle importait tout et n'était qu'un passage, un port desservant le désert, un désert sans eau. À présent, tout a changé, grâce à l'or noir, le pétrole.
Un extrait d'une archive INA de 1961. Rappelez-nous peut-être, Renaud Bouchard, dans quel contexte le Koweït crée son fonds souverain, donc dans les années 50.
En fait, c'est grâce aux Britanniques et aux réserves financières qui sont issues des premières exploitations pétrolières. Il s'agit de mettre de l'argent de côté, on constitue une tirelire, une cagnotte, voilà, pour peut-être pas exactement pour les rainy days, hein, on n'était pas tout à fait dans cette époque-là. Mais très usuellement, et on vient de l'entendre là, quand on regarde l'histoire des fonds souverains, on la fait toujours remonter à cette fameuse année 1953. En réalité, les fonds souverains sont quelque chose de beaucoup plus ancien que ça. Si on regarde en fait ce que peut être l'alliance entre un pouvoir politique, un pouvoir étatique et des capitaux, on pourrait dire, par exemple, d'une certaine manière, que le premier véritable fonds souverain, ce serait par exemple la Caisse des dépôts et consignations en France en 1816. Voilà. Mais si on regarde un peu plus tard, les vrais fonds souverains modernes, parce qu'il y a deux vagues de fonds souverains dans l'histoire des fonds souverains, ça commence aux États-Unis. Avec en fait un fonds qui existe toujours d'ailleurs, un Texas Permanent Fund.
En fait, là encore, c'est le pétrole.
C'est le pétrole, bien sûr. Où là, on a commencé à constituer tout simplement un réseau d'écoles et de transport. Voilà. Et puis alors, il y a eu d'autres fonds souverains aux États-Unis.
Voilà. Et la spécificité aux États-Unis, c'est que il n'y a pas de fonds souverains au niveau fédéral, mais aujourd'hui, une vingtaine de fonds qui sont détenus par les États.
Exactement. Vous avez par exemple un fonds comme le fonds d'Alaska, qui donne une ou deux fois par an, en fait, un dividende aux citoyens d'Alaska sur les profits qui ont été tirés par des investissements. Voilà. Mais chaque État, oui, il n'y a pas de fonds génériques, de fonds souverains américains. Voilà.
On va revenir sur l'existence, la possibilité d'un fonds souverain en France, mais d'abord, est-ce que on pourrait considérer la Caisse des dépôts et consignations, comme le disait Renaud Bouchard, qui a été créée en 1816, comme un fonds souverain, Marie Brière?
Oui, souvent elle est effectivement considérée comme le premier fonds souverain, donc c'est drôle que le...
Rappelez-nous peut-être son rôle.
Aujourd'hui, parce que le rôle de la CDC en 1816, je ne sais pas si... ça, j'en suis pas tout à fait certaine.
C'est une foi publique.
Mais donc un fonds public d'investissement, hein, donc et donc aujourd'hui une partie de ses activités a été intégrée aux activités de la Banque publique d'investissement, et donc elle a ce rôle d'investissement domestique pour soutenir les entreprises, l'investissement dans les entreprises, les PME, etc. en France. Mais je dirais que le mouvement d'expansion en fait des fonds souverains, donc effectivement il a démarré, enfin le premier vrai fonds souverain, enfin qualifié de souverain moderne, c'est celui du Koweït en 1953. Mais on a eu une vague d'expansion des fonds souverains dans les années 2000. Hein, et ça, je dirais, un peu poussé par le FMI et la Banque mondiale, qui recommandaient à beaucoup de pays émergents de mettre de côté des réserves sous la forme de fonds souverains pour éviter ce qu'on appelle la maladie hollandaise, hein, ou la malédiction des matières premières, c'est-à-dire le fait que des pays producteurs de matières premières voient en fait s'apprécier leur monnaie, ce qui génère de l'inflation domestique et va pénaliser les exportations d'autres secteurs de l'économie.
D'où la nécessité d'investir en dehors de leurs frontières, Renaud Bouchard?
Oui, mais ça peut être aussi des investissements domestiques. Hein, voilà. Le premier à avoir vraiment regardé, découvert cet objet tout à fait nouveau, il faut rendre en fait hommage au créateur, c'est un économiste américain d'origine russe, Andrew Rozanov. En 2005, il se rend compte, il publie un article dans une revue de banque, je n'ai plus les références là en tête, là, dans lequel en fait il s'intéresse à ce qu'il va appeler justement des sovereign wealth funds, hein, des fonds souverains de richesse. C'est pas encore exactement ce dont il s'agit. Mais en tout cas, il a mis la main sur quelque chose. Et au moment où il écrit, en 2005, il y a simplement 12 fonds souverains dans le monde. On en est actuellement... Alors, là, je reprends un peu les propos de Marie Brière tout à l'heure, parce qu'en fait, on a largement élargi le compas, maintenant, parlant des fonds souverains. Il y en aurait entre 92 actuellement, c'est l'Institut des fonds souverains, le Sovereign Wealth Fund Institute, qui les a vraiment répertoriés, ou alors 170, si on regarde très très large, avec les fonds de pension, avec même des family office, avec d'autres, vous voyez, c'est très large.
Et des fonds qui ont des tailles extrêmement différentes, entre par exemple le fonds norvégien, qui est peut-être l'un des plus grands fonds du monde, et le fonds libyen, ou certains fonds de pays africains qui sont de taille beaucoup plus réduite.
Exact, oui. Le fonds libyen a été un peu pillé au cours de son histoire. Le fonds norvégien est toujours présenté comme celui qui a le plus d'actifs. Là, c'est un vrai problème en réalité pour évaluer ce que c'est que la richesse ou les actifs d'un fonds souverain. Hein. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure.
Expliquez-nous pourquoi.
Comment calculez-vous la richesse d'un fonds souverain? Est-ce qu'il s'agit d'actifs dormants? Est-ce qu'il s'agit en fait des investissements qu'il peut avoir, comme par exemple le fonds norvégien qui a des participations dans 9500 sociétés dans le monde, par exemple? Et s'agit-il aussi des retours sur investissement?
Marie Brière, sur cette difficulté à les évaluer.
L'évaluation est faite au prix de marché. Donc, dans le cas du fonds norvégien, effectivement, c'est plus de 1000 milliards d'actifs sous gestion. Et ça représente la valeur de la capitalisation boursière des entreprises dans lesquelles ils investissent, plus les placements obligataires. Ils ont à peu près 70% d'investissement en actions, 30% en obligations. Donc c'est la part que ça représente en dollars de leur investissement.
Alors ce qu'ils représentent économiquement est potentiellement difficile à évaluer, mais aussi peut-être leur gouvernance, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais d'abord revenons sur les pays pétroliers dans le sillage du fonds koweïtien. Les pays du Golfe ont aussi créé leur fonds souverain. Et donc ce sont des fonds, comme vous commenciez à le dire, Marie Brière, qui sont censés servir d'amortisseur de choc économique en cas de chute des prix du pétrole, par exemple. Il y a un véritable objectif aujourd'hui des pays du Golfe, Renaud Bouchard, de diversifier leur économie afin de ne plus dépendre du pétrole.
C'est l'idée qui est devenue en fait une obligation cardinale maintenant, parce qu'on utilise maintenant un terme qui est celui de déplétion. En fait, en réalité, les ressources, je vous rassure tout de suite, les ressources pétrolières et gazières, surtout gazières, sont pas près de disparaître.
Elles sont considérables, mais elles sont de plus en plus coûteuses à extraire.
Pour certaines, actuellement, nous évoquions tout à l'heure, par exemple, le cas, on y reviendra peut-être tout à l'heure, avec le Public Investment Fund Arabie Saoudite, qui recourt à sa tirelire, qui est le Saudi Aramco, qui est la société pétrolière saoudienne dont on vient de découvrir qu'en fait que c'était la société, je déteste le mot, mais la société la plus profitable du monde avec 111 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais il s'agit en fait pour l'Arabie Saoudite, là je réponds à votre question, d'essayer de diversifier une économie. Alors l'Arabie Saoudite est un pays qui est un pays curieux, à moitié en transition et autres. Il y a par exemple, vous avez l'industrie chimique avec la société SABIC, par exemple, qui est un gros conglomérat, pétrochimique, qui est invité à participer, lui, à investir dans d'autres activités et qui essaye de sortir de l'économie carbonée. Je ne sais pas si le pari va être remporté pour une raison simple, c'est que on se retrouve toujours avec la question fondamentale qui est tout simplement les capitaux d'origine. Et là, pour ce qui est Saudi Aramco, c'est l'immense gisement pétrolier de Gawar, par exemple. Il faut imaginer un gisement pétrolier qui ferait la taille de la Louisiane à peu près, 270 ou 300 kilomètres de long, et qui a été exploité depuis 1946 et qui actuellement a été survalorisé, comme d'ailleurs la société Saudi Aramco, pour pouvoir procéder à l'introduction en bourse de cette société.
Alors ça pourrait être la plus grande entrée en bourse de l'histoire, c'est ce qu'on a pu lire à droite et à gauche. Et aujourd'hui, effectivement, le géant pétrolier saoudien Aramco tente d'attirer des fonds souverains aussi parce que c'est en quelque sorte une valeur sûre, une valeur stable que d'attirer des fonds souverains, Marie Brière.
Oui, alors c'est certainement intéressant pour Saudi Aramco d'attirer ce type d'investisseurs. À mon sens, c'est moins intéressant pour les fonds souverains d'investir dans une société pétrolière pour la raison qu'on vient de citer, c'est que normalement on devrait diversifier et donc le fonds souverain devrait avoir ce rôle de diversification avec le reste du patrimoine du pays et donc notamment ses ressources pétrolières. Et donc on avait conduit des travaux de recherche avec Svibodi à la Boston University justement sur cette question de l'allocation optimale des fonds souverains et on montrait que en fait au final le pays devrait considérer la gestion de son fonds souverain dans une logique de gestion actif-passif, donc en considérant toutes les sources de revenus qu'il a à l'actif et puis toutes les dépenses futures qu'il veut générer pour la population, par exemple. Et cette logique-là veut qu'on diversifie, en fait, la ressource pétrolière avec les actifs du fonds souverain et donc qu'on n'investisse pas le fonds souverain dans les sociétés pétrolières. C'est d'ailleurs ce que le fonds norvégien, qui actuellement investit dans des sociétés pétrolières, a entrepris de faire, c'est-à-dire de désinvestir graduellement dans ces sociétés.
Et alors la question qu'on peut se poser,
si les fonds souverains jouent bien le rôle de stabilisateur de l'économie mondiale qu'on leur attribue parfois. C'est en tout cas le rôle qu'ils ont joué en 2008, Marie Brière.
Oui, alors en 2008, effectivement, ils sont arrivés un peu comme des chevaliers blancs en investissant dans un certain nombre de secteurs de l'économie, notamment dans les banques qui se trouvaient en difficulté. Donc à ce titre-là, ils ont joué ce rôle d'amortisseur que vous citez. Après, en termes de stabilisation macroéconomique dans les pays qu'ils représentent, les résultats sont plus contrastés. On voit un certain nombre de pays émergents où justement les ressources sont assez mal utilisées, où les règles fixées au départ pour l'utilisation des fonds ne sont pas respectées. Alors il y a des exemples célèbres comme celui du Venezuela par exemple, où le fonds a été créé à l'initiative du FMI en 98. L'année d'après, Chavez modifie les règles de manière à pouvoir récupérer les fonds plus facilement. En 2005, il crée un nouveau fonds auquel il a accès directement. Donc on voit qu'il y a toujours cette tentation de la part d'un certain nombre de pays émergents d'utiliser directement les fonds à des fins directement dans les ressources du gouvernement.
Renaud Bouchard.
Oui, mais vous avez aussi, parce que vous évoquiez la question, des cas de pays, par exemple, qui sont... Ce sont plus des économies en transition, c'est une catégorie tout particulière. Je pense par exemple à l'économie russe, où là vous avez aussi des fonds souverains, vous en avez un qui va même très très bien actuellement, qui est le fonds souverain d'investissement russe, et puis un autre qui a joué parfaitement son rôle, c'est-à-dire en fait qu'il a tout simplement utilisé toutes ses réserves pour soutenir le rouble. Voilà. Donc il va être reconstitué bien évidemment, mais il a joué son rôle. Ça a été à la fois une sorte de fonds tampon, il a lissé en réalité des problèmes d'inflation.
C'est aussi le rôle qui a été joué par le fonds souverain chinois au moment de la crise de 2008. Il venait d'être créé, mais depuis, est-ce qu'il n'a pas aussi soutenu, sachant que ce fonds, il faut peut-être le dire, s'appuie davantage sur les revenus dégagés par les exportations, tout comme un certain nombre de fonds asiatiques.
Vous parlez du fonds du CIC chinois ?
Oui.
Oui, alors ça c'est très curieux parce que il a beaucoup investi, puis il n'investit plus beaucoup en ce moment, alors qu'il avait une dotation absolument gigantesque. La Chine, c'est un cas bien bien particulier. Vous voyez bien dans l'actualité actuellement, vous avez en fait une quarantaine de banques qui sont toutes en train de tomber les unes après les autres. Il y en a trois jusqu'à présent. On ne sait pas qui est qui derrière sont des banques en fait qui sont des banques régionales, mais qui sont de véritables monstres financiers.
Et que le fonds souverain chinois laisse tomber.
C'est ce non, que vous êtes en train il laisse de dire. Pas tomber justement. Mais on ne sait, je ne sais, là, je peux pas vous répondre dans le détail parce que je n'ai pas tous les éléments. Savoir comment il les rend flous. En tout cas, il ne laisse pas tomber. C'est
Marie Brière, peut-être plus largement sur ces fonds asiatiques qui s'appuient sur les revenus des exportations.
Oui, non. Donc, CIC est un fonds qui est en croissance depuis de nombreuses années. Il a désinvesti dans certaines sociétés un peu emblématiques comme Blackstone, et puis c'est arrivé au moment de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc, on a un peu de mal à interpréter cette décision. Mais par exemple, le partenariat continue. Donc, je ne pense pas qu'il faille complètement surinterpréter non plus cette décision-là. Non, moi, ce qui me semble important dans ce rôle de stabilisation que vous évoquiez et qui est essentiel pour les fonds souverains, c'est vraiment la gouvernance des fonds. Hein, c'est qu'il y a un mécanisme de gouvernance efficace qui fait que le fonds rapporte directement à des instances. Dans le cas de la Norvège, par exemple, il y a un reporting direct auprès du Parlement norvégien. Donc, en fait, il y a une délégation auprès du ministère des Finances qui délègue lui-même à la Banque centrale la gestion concrète du fonds, un organe qui s'appelle NBIM. Et NBIM reporte au ministère des Finances qui, lui-même, une fois par an, reporte auprès du Parlement norvégien. Alors, naturellement, c'est un pays démocratique, donc c'est plus facile d'assurer cette bonne gouvernance en Norvège qu'au Tchad. Mais c'est un mécanisme qui est essentiel. Et on voit bien que ces fonds souverains, ils ont été créés dans beaucoup de pays émergents justement pour essayer d'isoler les fonds des tentations du gouvernement d'aller utiliser ces ressources un petit peu facilement. Les travaux, par exemple, Christelle Lecour, qui montrent qu'il y a plus de fonds souverains qui sont créés dans des pays non démocratiques que démocratiques. Hein. Et donc, malheureusement, il y a toujours cette tentative, malgré la tentation d'isolement pour éviter la corruption, des tentatives de récupérer ces ressources.
Et ces fonds peuvent être utilisés comme des outils de développement. C'était le cas de Singapour, par exemple. Et dans ce cas, qu'est-ce qui motive la décision, par exemple, d'investir davantage dans l'économie nationale ou au contraire hors de ses frontières, Marie Brière ?
Oui, on voit les deux types de fonds, pas toujours dans les mêmes pays. Donc certains pays, donc la Norvège par exemple, a pris la décision d'investir uniquement internationalement. Donc il y a cette motivation. La Norvège a fait l'expérience de la malédiction des matières premières, hein, donc ce fameux syndrome norvégien qui est à, un problème économique qui est apparu, syndrome hollandais qui est apparu en Hollande dans les années 60. Donc ils ont fait cette expérience-là et il leur a semblé préférable d'investir entièrement internationalement, également pour protéger le pouvoir d'achat de la population norvégienne. Donc il y a cette idée qu'il faut transformer la manne pétrolière de manière à assurer pour les générations futures un pouvoir d'achat constant.
Et d'autres pérenniser pays, le financement de l'État-providence, c'est aussi affiché comme tel.
Exactement. Alors que dans d'autres pays qui considèrent qu'ils ont un secteur domestique qui est peut-être sous-développé, où il y a des secteurs qu'il faut promouvoir, on voit des fonds d'investissement domestiques qui viennent aider, soutenir un secteur domestique, en fait.
On va venir, bien sûr, à cette question de la gouvernance que vous avez soulevée et qui est absolument fondamentale. Mais d'ailleurs, d'abord, un mot sur donc ces investissements dans des banques européennes, américaines, au moment de la crise de 2008, financement qui pouvait venir en partie des pays du Golfe. Ce sont des investissements qui ont suscité des inquiétudes. Avec cette question, Renaud Bouchard, est-ce que le Qatar ou la Chine, par exemple, pourraient être tentés de transformer leurs investissements en puissance politique? C'est une question qu'on se pose depuis 2008.
Quel type de puissance politique? S'il s'agit par exemple d'apporter de l'argent frais pour des infrastructures et autres, alors là on est vraiment complètement dans le vif du sujet, avec par exemple l'arrivée, la montée en puissance, ce que l'on a appelé en fait les nouvelles routes de la soie par exemple. Vous avez, là tout se mélange à ce niveau-là, par exemple vous avez la fameuse BAII qui est en fait la banque d'investissement sur les structures qui sont destinées en fait à financer et à assurer justement tout ce gigantesque programme d'infrastructure, essentiellement des voies de chemin de fer, par exemple, entre la Chine et, comment dirait, l'Europe. Et puis là, vous avez d'autres banques que vous trouvez effectivement en Europe, qui viennent financer, c'est moins visible en Europe de l'Ouest, par exemple, plutôt qu'en Europe centrale, où vous avez des pays qui sont maintenant littéralement pris en main par les Chinois, que ce soit en fait, j'allais dire, de la Pologne à la Serbie, on construit des autoroutes, on construit des ports, on renouvelle tout. Et ça, ce sont vraiment des banques, des capitaux chinois. Vous avez aussi, par exemple, cet exemple qui est très, très, très connu, qui est le rachat du port du Pirée, par exemple.
Oh, yes.
Et puis, de la compagnie de navigation ou de l'infrastructure portuaire Konosco, je ne sais plus exactement, j'hésite sur l'acronyme, là.
Donc, il y avait une inquiétude peut-être plus importante à propos des pays du Golfe, en particulier du Qatar en France. Marie Brière, aujourd'hui, ça serait une inquiétude qui se dirigerait davantage vers les investissements chinois?
Oui, certainement. Oui, non, il y a un certain nombre de... Il y a toujours eu des tensions, en fait, entre pays émergents, je dirais, pays développés, sur la manière dont placent, en fait, ces investissements des fonds souverains. Et il y a toujours eu, enfin ça fait quand même de nombreuses années qu'il y a ces tensions un petit peu avec la Chine. Il y a eu des initiatives d'ailleurs de place pour essayer de réguler ces tensions. Donc il y a eu la signature des principes de Santiago par exemple en 2008 à l'initiative du FMI pour offrir un meilleur cadre de gouvernance et de transparence pour les investissements des fonds souverains. Et puis il y a eu une initiative parallèle menée par l'OCDE la même année sur les pays récipiendaires pour qu'ils s'engagent de leur côté aussi à être plus ouverts, à autoriser plus d'investissements des fonds souverains et aussi plus de transparence dans ce qu'ils autorisaient ou n'autorisaient pas comme investissement.
Je vous propose d'écouter le point de vue de Farid Masmoudi. Il appartient à la Banque islamique de développement.
Le Qatar n'a pas vocation à avoir un rôle actif en tant qu'investisseur, du moins dans la participation. Le Qatar a un rôle à utiliser cette participation pour démontrer un certain engagement à long terme pour les pays européens. Donc il faut le voir ça comme un message politique à long terme, plus que sur un acteur qui va être acteur dissident au sein du capital, comme peut-être par exemple les hedge funds, les grands fonds spéculatifs. Ce n'est pas du tout le cas du Qatar. Le Qatar a vocation à être un investisseur, je dirais, dormant, qui va permettre de solidifier les capitaux de ces entreprises, mais qui n'a pas vocation à avoir un rôle actif dans le management.
Marie Brière, que vous inspirent ces propos? Un investisseur dormant, qu'est-ce que cela signifie?
Oui, un investisseur dormant, ce que je comprends, c'est un investisseur qui ne prend pas part aux décisions des entreprises, donc c'est ce qu'il dit exactement, hein, il ne prend pas part aux décisions du management. Ça, je pense que c'est discutable, que c'est un cadre d'analyse qui est en train de changer. On voit que beaucoup d'investisseurs, pas seulement les fonds souverains, mais aussi les fonds de pension, de plus en plus prennent part aux décisions du management. Il y a tout un mouvement de développement, de l'engagement, du vote en assemblée générale, qui peut être une très bonne chose aussi, parce que peut permettre de meilleurs processus de gouvernance auprès auprès des entreprises. Mais donc, postuler qu'ils vont avoir un rôle passif dans les 20 prochaines années, je pense que c'est un vœu pieux et je suis pas du tout certaine que ça peut durer comme ça.
Renaud Bouchard.
Vous évoquiez à l'instant la finance islamique, par exemple, qui constitue alors une catégorie tout à fait à part en matière de fonds souverains, car il existe des fonds souverains islamiques. Voilà. En fait, il s'agit de gagner de l'argent, mais en respectant en fait des principes qui sont édictés par la charia, en fait la loi musulmane. Avec dans le grand public, on sait habituellement, en fait, on proscrit tout simplement l'usure, mais il ne s'agit pas en réalité pas de philanthropie dans la banque, jamais. Ce sont simplement des modalités tout à fait différentes de placement financier avec des élaborations d'autres instruments financiers. Si on regarde par exemple ce qui constitue les partenaires dormants, les sleeping partners par exemple, vous avez dans cet immense arc de fonds souverains islamiques qui va donc des pays du Golfe arabo-persique jusqu'à l'Asie du Sud-Est, où c'est quand même là que ça se passe. Là, on a des fonds qui sont loin d'être des fonds dormants et qui sont en fait de véritables machines financières qui investissent avec aussi bien les règles, j'allais dire, habituelles qui utilisent en fait toute la technique bancaire que nous connaissons, mais aussi des catégories particulières, par exemple ce qu'on appelle les soukouks, par exemple, qui sont en fait des obligations avec les mêmes avantages et puis les mêmes désastres qui peut y avoir aussi. On ne sait jamais plus que des placements financiers.
Et ce qu'on observe, c'est que ces fonds souverains prennent, semble-t-il, de plus en plus de risques. On en parle dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Roquigny.
You always got a less to lose. Let me tell you now, I don't care where the money is. I gotta go where my soul can breathe. I got more than just money can buy. Gonna live my whole life free. Let me tell you now, I don't care where the money is. I gotta go where my soul can breathe. I got more than just money can buy. Gonna live my whole life free.
I don't care where the money is, de Diana Ross sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Marie Brière et Renaud Bouchard sont toujours avec nous pour parler des fonds souverains au service de la puissance des États. Alors on l'a dit, les fonds souverains sont des investisseurs réputés stables, même si c'est quelque chose qui évolue. Et pourtant, pendant la crise de 2008, déjà, ce qu'on a constaté, c'est que ces investisseurs avaient pu prendre un certain nombre de risques, Marie Brière.
Oui, non, effectivement, donc c'est des investisseurs qui ont le souci de diversifier leur portefeuille pour beaucoup d'entre eux. Et effectivement, on a vu une augmentation des risques pris en portefeuille avec une augmentation de la part d'actions en portefeuille. Ça, c'est assez net sur beaucoup de fonds souverains. Et puis également, plus d'investissements dans ce qu'on appelle les alternatifs, c'est-à-dire les hedge funds, le private equity, les infrastructures.
Donc les hedge funds, ce sont des fonds spéculatifs.
C'est ça. Mais je citerais beaucoup aujourd'hui le private equity, les infrastructures, l'immobilier. Donc, par exemple, la Norvège a introduit un investissement en immobilier il y a quelques années. Réfléchie, elle ne l'a pas fait à l'introduction de private equity, mais beaucoup de fonds souverains sont très très actifs sur le private equity.
Alors, rappelez-nous ce que c'est que le private equity.
Donc, c'est l'investissement direct dans des entreprises qui ne sont pas cotées sur le marché, hein, donc qui ne sont pas listées sur une bourse, en fait.
Et qu'est-ce
donc,
que cela change?
Alors, ça offre, en théorie, des perspectives de rendement plus élevées, parce qu'on peut capturer une prime d'illiquidité, et puis ça offre la possibilité aussi d'investir dans d'autres secteurs, des sociétés plus petites, dans une phase moins avancée de leur croissance, etc.
Mais c'est plus risqué,
oui.
Alors il y a des investissements effectivement plus diversifiés que l'on observe et des investissements notamment dans les technologies. Je vous propose d'écouter Masayoshi Son, le PDG de SoftBank.
Je suis un croyant. Je suis définitivement un croyant dans les technologies. Certaines personnes n'aiment pas les technologies, c'est leur principe d'investissement. Moi, j'aime, je crois en la technologie. Je le fais en donnant du pouvoir aux nouvelles forces qui arrivent. Ces nouveaux jeunes entrepreneurs, de mon point de vue, ce sont des Jedi. De jeunes Jedi qui sortent de l'école et ils commencent en apprenant à voler. Et certains d'entre eux ont déjà pris leur envol.
Voilà, le PDG de SoftBank interviewé par CNN, c'était en mai 2019. Le groupe de Masayoshi Son, sur lequel ont misé les fonds souverains saoudiens et aussi d'Abu Dhabi, illustre peut-être, Marie Brière, à la fois donc cette diversification des investissements, comme on l'a dit, mais aussi cette prise de risque croissante de la part des fonds d'État, puisque en l'occurrence, SoftBank a investi dans WeWork, une société de location de bureaux en coworking, et ça a tourné au fiasco, René Bouchard.
Oui, ça arrive. Ça arrive, il y en aura d'autres. Hein. Mais il y a aussi des histoires qui sont absolument extraordinaires. Je repense encore à Singapour et à Temasek, par exemple, qui s'est diversifié très très rapidement. Il y avait, par exemple, des supermarchés, par exemple. Et puis, à un moment donné, un des patrons de Temasek s'est rendu compte que la Chine était en plein développement et a décidé de prendre des parts dans Alibaba et Tencent. Voilà, le miracle de la multiplication des pains a eu lieu.
Mais ce qu'on voit tout de même, c'est que ces fonds souverains ne sont pas à l'abri des fluctuations du marché. Par exemple, le fonds souverain norvégien a accusé une perte de près de 500 millions de couronnes, donc 50 milliards d'euros l'an dernier.
Oui, mais il avait fait des profits bien plus importants l'année d'avant. Et cette année est une année profitable aussi pour le fonds. Mais c'est vrai, je pense qu'effectivement, donc ils investissent, ils ont fait ce pari puisqu'ils ont modifié assez récemment la location d'actifs et ils ont augmenté la part d'action de 60 à 70%. 10%, hein, ce qui est quand même assez important. Et donc le pari, alors dans un environnement de taux très bas aussi, il faut le rappeler, où il y a peu d'autres possibilités d'investissement rentables. Donc ils ont fait ce pari d'investir plus en actions. Ça veut dire aussi prendre effectivement plus de risques et on le voit sur la volatilité de l'investissement. Mais c'est un fonds qui a été extrêmement profitable, hein, qui a généré un rendement de plus de 5% sur son histoire.
Et on peut s'interroger sur les choix qui sont faits par ce fonds, puisque le fonds souverain norvégien revendique des investissements éthiques. Écoutons d'abord son ancien directeur général, Yngve Slyngstad. C'était en septembre 2018.
Il n'y a qu'une seule option, c'est celle de faire de l'argent. Simplement, nous y pensons sur le très long terme et c'est pourquoi nous considérons les risques sur un plan très large. Il existe un certain nombre d'entreprises dans le monde qui sont listées et dans lesquelles nous ne voudrions pas investir pour des raisons éthiques. Nous avons un conseiller spécial d'éthique ou simplement parce que nous pensons qu'il ne s'agit pas de modèle économique viable dès lors que l'on prend en compte toutes les externalités créées par ces entreprises. Ce fonds existe dans le but de diversifier nos réserves de pétrole. Nous en avons produit à peu près assez depuis 47 ans et nous pouvons continuer ainsi pendant encore 50 ans, mais pour réussir la transition à venir, il ne serait pas logique de diversifier en investissant l'argent du pétrole dans des compagnies pétrolières partout dans le monde. Donc c'est encore une fois une pensée purement économique sur les futures richesses de la nation. Et c'est pourquoi nous devons moins réinvestir dans les mêmes industries.
Voilà le gouvernement norvégien qui a annoncé cet automne qu'il pourrait retirer ses actifs de 95 entreprises du secteur pétrolier. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Marie Brière?
Oui, non, je pense que c'est le résultat de cette logique de diversification avec dans un cadre général, c'est-à-dire considérant l'ensemble l'ensemble du bilan de l'État et donc en tenant compte des ressources naturelles produites par le pays. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une assez mauvaise idée d'investir dans des sociétés pétrolières quand on est soi-même producteur de pétrole et extrêmement exposé à ce risque-là dans l'économie. Donc la diversification semble être la bonne stratégie financière, hein, économique et financière.
Mais au-delà de la Norvège, comme on le disait, Renaud Bouchard, la tendance des investissements est à aller vers les investissements moins carbonés, avec cette idée que l'extraction du pétrole coûte de plus en plus cher.
Oui, elle coûte, mais tant qu'on aura besoin de pétrole, on mettra les moyens pour le faire. On n'hésite pas, par exemple, à développer des recherches dans l'Arctique, par exemple. Je crois que la question, effectivement, est topique et vraiment importante. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est cette histoire de diversification. Que la Norvège décide de changer de fusil d'épaule, c'est une chose. Je reviens à l'Arabie Saoudite, par exemple, qui cherche actuellement, il y a 30 millions d'habitants en Arabie Saoudite. Il y a un taux de chômage qui est extrêmement important. L'Arabie Saoudite cherche de l'argent pour pouvoir réinvestir dans d'autres entreprises, une diversification. Mais pour faire quoi? Pour recevoir encore des retours sur investissement et un chèque à la fin du mois? Ça, je pense que on va dans l'impasse, là.
Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour l'Arabie Saoudite?
Il faut créer de l'industrie, il faut créer des activités, il faut travailler sur place. Ce que des pays, par exemple, comme le Qatar, ont réussi à faire.
Ils investissent dans l'économie de la connaissance davantage.
Dans l'économie de la connaissance. Mais l'Arabie Saoudite aussi investit dans l'économie de la connaissance, mais d'une manière différente. Le Qatar, par exemple, avait décidé de mettre au point des programmes d'investissement. Quelqu'un qui allait faire ses études, financé justement par l'État du Qatar, avait la possibilité, après, s'il était médecin, par exemple, de se voir donner des facilités de financement pour ouvrir un cabinet médical. Il apprend un métier, on n'attend pas le chèque à la fin du mois.
Voilà, mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, Renaud Bouchard, parce que ça pose quand même la question du choix de ces investissements. En l'occurrence, pour le cas de la Norvège, le pays veut limiter ce retrait des entreprises du secteur pétrolier aux compagnies qui sont exclusivement tournées vers l'exploration et la production d'hydrocarbures. Donc on sent qu'il y a aussi une volonté peut-être d'être plus moins ferme avec certains groupes multinationaux. Et alors, en l'occurrence, en 2008, ce fonds norvégien avait aussi exclu le géant minier Rio Tinto, mais depuis, il l'a réhabilité en disant « Ah ben non, finalement, la multinationale a changé son comportement. » Qu'est-ce qu'il faut conclure de ces revirements, Marie Brière?
Oui, non, je ne l'interprète pas comme des revirements, c'est deux raisons différentes. Pour Rio Tinto, il s'agissait d'une politique d'exclusion qui était liée, en fait, donc le fonds norvégien a délégué à un conseil de l'éthique indépendant, qui est complètement indépendant aussi du ministère des Finances, la décision d'exclure un certain nombre d'entreprises sur des raisons éthiques. Rio Tinto avait une filiale, Grasberg, qui extrayait de l'or et du cuivre et qui polluait énormément des rivières en Indonésie. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 11 ans, le fonds l'a exclu. Cette entreprise, Rio Tinto, a vendu cette participation dans Grasberg. Et c'est la raison pour laquelle ce comité d'éthique complètement indépendant a réintroduit l'entreprise dans la liste des entreprises dans lesquelles il est possible d'investir.
Donc je pense qu'il y a une liste noire dont on sort ou pas des entreprises, qui est une manière d'exercer une certaine pression sur ces entreprises.
Tout à fait, tout à fait. Et ça va dans le sens de ce que vous disiez sur l'importance des fonds souverains aujourd'hui et sans doute demain sur le financement de la transition écologique. Je pense que ces fonds ont un rôle extrêmement important à jouer dans ce sens-là. Le fonds norvégien, on en parle beaucoup, mais parce que c'est sans doute un modèle et un leader en la matière, a une politique extrêmement avancée en la matière. Il fixe des standards sur un certain nombre de sujets en discussion avec les institutions internationales. Donc ces sujets, c'est le climat, les océans, la gestion de l'eau, les droits humains, le travail des enfants, la transparence fiscale, etc. Il a une politique d'exclusion des firmes. Comme on l'a entendu, il y a deux types de politiques d'exclusion. Celle pour des raisons éthiques. Donc, par exemple, il exclut le charbon, les armes nucléaires, le tabac, toutes les entreprises qui créent des dommages environnementaux, qui violent les droits humains, etc. Et puis, il a une politique d'exclusion plus spécifique qui est liée, en fait, à l'analyse de risques de long terme des entreprises. Donc, plus pour des raisons financières, mais s'il pense que, par exemple, les risques climatiques peuvent pénaliser à long terme la performance de l'entreprise. Et puis, très important, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un fonds qui est très actif dans l'exercice du droit de vote des actionnaires. Alors là, ça ne choque personne parce que c'est un fonds issu d'un pays démocratique. Et ils exercent plutôt bien ce droit de vote des actionnaires. Bon, j'ai des travaux avec Sébastien Pouget et Loredana Urech-Rongo sur ce sujet, où on compare leur politique de vote en Assemblée Générale, donc comment ils se comportent lors des Assemblées Générales d'actionnaires, et on compare ça à celle des fonds mutuels américains, par exemple, et on se rend compte qu'ils soutiennent beaucoup beaucoup les résolutions d'actionnaires sur les sujets environnementaux et sociaux. Donc ils sont très actifs pour promouvoir ces sujets-là dans les entreprises. Donc ils peuvent avoir de ce point de vue-là, eux et d'autres fonds souverains, et on pourrait peut-être parler aussi des initiatives qui sont en train de se monter à ce sujet-là, un rôle très vertueux dans la gouvernance des entreprises.
Ce qui nous amène effectivement à cette question de l'encadrement de ces fonds. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le scandale 1MDB, donc c'est le nom de ce fonds d'État malaisien. Il y aurait 3,5 milliards de dollars issus de ce fonds qui auraient été détournés. Est-ce que c'est un scandale qui a éclaboussé l'ancien premier ministre malaisien et la banque Goldman Sachs. Renaud Bouchard, est-ce qu'on peut lier ce scandale au flou qui entoure parfois la gouvernance de ces fonds souverains?
Oui, mais en ce qui concerne la Malaisie, je suis quand même extrêmement surpris parce que la Malaisie a été gouvernée d'une main de fer par le Lee Kuan Yew malais, qui était le premier ministre Mahathir Mohamad, qui a quitté le pouvoir pendant une dizaine d'années et qui a donc laissé la place à son successeur qui est, impliqué en réalité ou tout au moins très sérieusement concerné par ce détournement de fonds. C'est très surveillé, un fonds souverain, surtout dans des pays comme ça. Et là, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. En tout cas, le fonds a été entièrement siphonné. Ça a mis en cause des banques, comme celles que vous avez citées. Il y en a d'autres aussi, des personnalités et autres. L'argent, je vais peut-être vous surprendre, sera récupéré.
Comment cela ?
Parce qu'on est dans un monde où ce genre de pratique est absolument inadmissible. On ne doit pas commencer comme ça. Il existe des règles institutionnelles.
Surtout parce que la justice américaine est à la manœuvre, en l'occurrence.
Oui, mais aussi la justice malaise et puis aussi personnes directement intéressées par les investissements en fait du fonds malaisien, par investir en Malaisie aussi. Enfin, non, on ne peut pas cautionner ce genre de pratique.
Mais on peut se demander plus largement comment on peut éviter ce genre de dérive et comment garantir l'indépendance des souverains par rapport au pouvoir politique. Ça, c'est un enjeu absolument majeur, Marie Brière.
Oui, tout à fait. Comment garantir, c'est extrêmement difficile, notamment dans un pays qui n'est pas démocratique. On voit que ça marche bien dans les pays démocratiques, ça marche moins bien, malgré une volonté d'une partie de la population et des personnes dans l'administration de faire en sorte que ces fonds soient isolés. On voit qu'il y a des pressions, souvent politiques, pour récupérer cet argent à d'autres fins, et notamment ça peut être lié à des problèmes de corruption, mais même simplement de dépenses à des moments un peu difficiles dans la situation économique du pays. Et il y a cette pression aussi dans la rue. Il faut quand même pas oublier que dans certains pays, c'est même arrivé en Norvège, en Chine, quand justement les performances du fonds sont mauvaises, ou dans des situations difficiles économiquement, on voit parfois des manifestations de gens mécontents qui réclament en fait l'argent du fonds souverain, quoi, qui serait utilisé autrement.
Peut-être que l'un des arguments les plus efficaces pour séparer le fonds souverain du pouvoir politique, c'est que c'est ce qui permet la meilleure efficacité économique.
Disons que c'est ce qui permet le mieux de stabiliser. Le pire, c'est effectivement d'avoir une volatilité des dépenses gouvernementales. C'est-à-dire qu'elles soient mal utilisées et notamment qu'elles soient dépensées de manière extrêmement rapidement lorsqu'on a une augmentation des prix des matières premières pour se retrouver dans des périodes de disette, de pénurie à des moments où les prix des matières premières diminuent. Donc le pire, c'est ça, c'est cette volatilité-là. Donc le fonds souverain, son rôle à jouer, c'est celui d'amortisseur et donc de permettre de ce lissage en fait dans le temps des dépenses. Ce qui permet une meilleure santé économique pour le pays.
Renaud Bouchard.
Alors vous avez un fonds souverain qui est parfaitement dans l'optique que vous venez de décrire, qui est le fonds souverain chilien. C'est la ressource principale et unique, c'est le cuivre, et le fonds souverain appartient à l'armée. Donc c'est très très bien géré.
Alors une solution apportée par Renaud Bouchard,
mais
alors
non, plus... ce n'est pas une solution que j'apporte, c'est un constat qui est fait, mais effectivement, économiquement, financièrement, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe un petit peu en Norvège. Vous avez chaque patron d'engagement qui est d'une limpidité certaine. C'est un contrôle interne qui se fait.
Oui, mais vu la situation économique actuelle du Chili, on a du mal à trouver que ce fonds est parfaitement géré quand même.
Il est très très bien géré, mais ça n'a rien à voir avec la situation du Chili.
Mais toute la question étant, est-ce que ce fonds peut servir à répondre à des difficultés économiques, c'est ce qui s'est passé en Algérie par exemple.
Mais, oui, au Chili il y a deux fonds, il y a un fonds de stabilisation et un fonds de réserve, et le fonds de stabilisation a effectivement très bien joué son rôle économique de stabilisateur. Hein, donc,
Et alors, c'est intéressant de voir que chaque pays, vous l'avez dit, Marie Brière, crée son fonds souverain. Enfin, disons que ces fonds souverains se multiplient depuis les années 2000. Et alors, pour protéger la souveraineté économique de l'Hexagone, Nicolas Sarkozy appelait dès 2008 à créer justement un fonds souverain français.
Les entreprises françaises ont besoin d'investisseurs de confiance, d'investisseurs stables, qui ne viennent pas avec des intentions cachées sur leur technologie, c'est-à-dire rachetées pour transférer ailleurs, et qui ne viennent pas non plus avec la seule logique financière du court terme. Les entreprises ont besoin d'investisseurs intéressés à ce que l'entreprise voudra dans 5 ans ou dans 10 ans, et pas simplement dans les 2 mois. Les entreprises françaises ont besoin de fonds propres pour se développer, plutôt que d'effets de levier indécents pour se faire essorer. C'est pour cette raison que j'ai souhaité la création d'un fonds stratégique d'investissement français qui n'a jamais existé dans l'histoire économique de la France.
Voilà le discours de Nicolas Sarkozy à Montrichard dans le Loir-et-Cher, c'était le 20 novembre 2008. Marie Brière, c'est lui qui a émis le premier l'idée d'un fonds souverain français mais aussi européen.
Oui, je ne sais pas si c'est lui qui est le premier. Alors déjà, des fonds souverains français, alors ça dépend de la définition qu'on retient pour les fonds souverains, mais il en existe déjà. Il y a le fonds de réserve des retraites, par exemple, la Banque publique d'investissement, qui sont quand même considérés comme des fonds souverains. Alors, est-ce qu'il faut un autre fonds souverain français? C'est une question, en fait. Effectivement, ça peut jouer un rôle important et intéressant pour soutenir le financement d'activités, notamment dans les nouvelles technologies, etc. Donc ça peut être intéressant. Il faut aussi se méfier, en tout cas, l'évidence internationale nous montre qu'il faut se méfier des pressions politiques qui peuvent exister lors de la création de fonds souverains avec des visées d'investissement domestique. Et notamment, dans beaucoup de pays, quand il y a trop de pression de la part du gouvernement, les choix de financement sont malheureusement inefficaces. Et donc, on va investir dans des entreprises qui sont trop chères et qui ne sont pas forcément les plus rentables. Donc, oui, c'est une bonne idée sur le principe, mais méfiance dans les choix d'investissement qui peuvent être faits.
En l'occurrence, l'objectif d'un fonds souverain européen, ce serait de se protéger des financements étrangers, comme on en parlait tout à l'heure, et de financer en priorité les champions industriels européens. Renaud Bouchard, qu'est-ce que vous pensez d'un fonds d'investissement européen?
Oui, alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'il y a un événement très curieux qui s'est produit il y a un peu, je veux dire, cet été. On a annoncé la création, mais tout à fait par hasard, c'est une fuite, en fait, en réalité, d'un fonds souverain européen qui aurait été doté de 100 milliards d'euros d'investissement et autres. Et puis ensuite, l'histoire a complètement disparu des écrans.
Ça a été annoncé par la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, fin août.
Et puis ensuite, les porte-parole, je crois, expliquaient que non, le projet était peut-être pas encore mûr, pas tout à fait. Donc c'était une non-histoire. Je pense personnellement que l'idée d'un fonds souverain européen, du point de vue symbolique, est quelque chose d'intéressant. Voilà, savoir comment il serait financé, c'est un peu autre chose. Voilà, à quoi servirait-il? Il faudrait encore effectivement déterminer, j'allais dire, un champ d'activité.
Ce qui s'est dit, c'est qu'il serait financé par les budgets des États.
Oui.
Des États membres.
Ouais, effectivement. Voilà.
C'est en tout cas une option qui est sur la table.
Oui.
Mais après, est-ce que 100 milliards, ce serait suffisant? On parlait tout à l'heure des 1000 milliards du fonds norvégien. On a le sentiment que peut-être ça ne va pas assez loin. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Brière?
Oui, c'est effectivement une taille qui paraît faible comparée à la Norvège. Mais je pense qu'il y a quand même un objectif sur lequel il faudrait travailler. C'est effectivement le financement de la transition énergétique. Et là-dessus, l'Europe devrait pouvoir avoir un rôle à jouer. Et comme je le disais tout à l'heure, un nombre de fonds se sont mobilisés pour prendre ce sujet à bras-le-corps. Il y a eu des initiatives comme par exemple la One Planet Sovereign Wealth Fund Initiative, qui est une coalition de 6 fonds souverains qui ont écrit qu'ils allaient mettre en place un groupe de travail qui a d'ailleurs été soutenu par le président Macron pour accélérer l'intégration du changement climatique dans la gestion des fonds souverains. Ça s'est transposé en fait par des recommandations auprès des gestionnaires d'actifs. Amundi par exemple était partenaire d'une initiative d'asset manager qui gère pour le compte de ces fonds souverains. Donc je pense que ce sont des initiatives qui sont extrêmement importantes, qui vont devenir de plus en plus importantes à l'avenir. Et la question, c'est comment justement ces investissements des fonds souverains vont se déployer sur des investissements ayant un impact environnemental. Et donc là-dessus, donc avec des objectifs concret d'atténuation des émissions.
Et vous croyez que ce fonds souverain européen pourrait voir le jour? Vous disiez que ça pouvait être une bonne initiative sur le plan économique.
Je ne sais pas s'il peut voir le jour. Je pense que ça, c'est une question politique. Bon, 100 milliards, c'est pas un énorme budget, mais la question, c'est quel serait son rôle et quel type d'investissement on financerait, comment on les sélectionnerait. Et je pense que c'est cette question-là qui est extrêmement importante si on veut s'assurer qu'il soit efficace et qu'il n'aille pas financer des entreprises qui n'en ont pas besoin.
On peut espérer que si ce fonds souverain européen voyait le jour, Renaud Bouchard, il se ferait peut-être le porteur d'un projet justement de transition énergétique avec l'idée d'édicter un certain nombre de normes pour les entreprises.
Les normes existent déjà.
Alors la question est peut-être dans le respect de ces normes.
Oui, et puis dans leur application, dans leur connaissance. Je pense que tout le monde... vous savez, on parle de développement durable. J'ai un peu l'impression parfois qu'on continue à vouloir faire durablement ce qu'on a fait jusqu'à présent. On peint tout en vert. Mais non, il y a des choses qui sont réelles, que ce soit justement des industries non polluantes. Oui. Alors là, vous savez, le but d'un fonds souverain, c'est de gagner de l'argent. Et c'est pas tout de devenir riche, il faut le rester. Ça, c'est très compliqué. Et alors...
Tout va dépendre de la rentabilité, effectivement, de ces investissements verts.
Je pense, par
exemple,
alors c'est pas la même zone géographique. Vous avez en Chine, par exemple, des programmes de reforestation qui se font. Bon, c'est des mono-espèces végétales, mais enfin, en tout cas, c'est efficace. La Chine est dans une économie charbonnière. Elle cherche à sortir, justement, avec des programmes de lutte contre la pollution. On investit beaucoup d'argent. Alors, le retour sur investissement, bien, très paradoxalement, est immédiat. L'air est pur, tout au moins il est moins pollué. Et puis, pour l'avenir, oui, évidemment, moins de maladies et autres. Ce sont des externalités, ce sont
pour un État un impact, effectivement, c'est extrêmement compliqué à calculer, de savoir si vous aurez une population qui sera moins malade et ça pèsera moins sur la sécurité sociale. Enfin, ce sont des calculs extrêmement complexes, Marie Brière.
Oui, tout à fait. C'est effectivement la question du calcul des externalités. Il y a des économistes qui travaillent sur ces questions-là et qui essayent de chiffrer ça. Mais en tout cas, on voit un mouvement d'internalisation des externalités. C'est-à-dire qu'on voit un mouvement de prise en compte de ces externalités qui autrefois n'étaient pas chiffrées.
Il y avait par les entreprises.
Par les entreprises. Et sous la pression de beaucoup d'investisseurs institutionnels. Des fonds souverains, mais pas seulement. Des fonds de pension également.
Mais vous avez...
On arrive presque au terme de l'émission.
Oh, 15 secondes. Vous avez, c'est un de mes collègues, professeur Claude Rocher, qui a écrit sur les smart cities. Et justement, avec l'idée de faire venir les fonds souverains pour pouvoir rendre ces villes, non pas intelligentes avec les connexions, l'Internet des choses et autres, mais faire en sorte en fait que les villes deviennent vivables. Et si vous regardez par exemple, vous parliez de l'OCDE tout à l'heure, les travaux de monsieur Joachim Oliveira Martins, par exemple, sur la bidonvillisation du monde, comment faire en sorte que des villes gigantesques, des taudis, comme on peut en trouver à Kibera, en Afrique, au Nigeria ou à autre, puissent avoir des adductions d'eau, de l'électricité, de la santé et tout. Là, je crois, on n'a pas parlé de cette question-là, mais les fonds souverains en Afrique, par exemple, c'est un immense champ d'ouverture et d'avenir. Là.
Un dernier mot peut-être, soit effectivement sur le développement, comme le disait Renaud Bouchard, ou plus largement sur l'avenir de ces fonds souverains.
Non, je pense qu'ils sont amenés à croître, on l'a vu, ils ont été multipliés par 10 en termes d'actifs sous gestion en 10 ans, donc croître en termes d'actifs, donc on ne peut pas les oublier, et aussi dans leur rôle, et notamment dans la gouvernance des entreprises et le financement de la transition énergétique.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Célébration ce week-end des 30 ans de la chute du mur de Berlin, le début de l'histoire qui a conduit à la réunification. Mais réunification ou liquidation économique de la RDA, c'est la controverse qui a surgi cette année.
Oui, et qui ressurgit peu à peu avec d'abord un documentaire d'Arte sur les dessous de la réunification allemande. Et puis plus récemment, un article du Monde Diplomatique l'a titré « L'histoire d'une annexion », article qui a le mérite de mettre l'accent sur la sorte de colonisation économique, comme le disait tout récemment aux Échos un ancien responsable allemand, colonisation vécue par les Allemands de l'Est qui se sont vus entrer à marche forcée dans l'économie sociale de marché, des reproches qui sont cristallisés aujourd'hui sur la Treuhandanstalt, l'agence qui était chargée de privatiser les capitaux et les sociétés est-allemands, puissante, opaque et soupçonnée d'avoir détruit à dessein le tissu industriel est-allemand avec pour premier résultat 1 200 000 chômeurs en 2 ans. Le débat économique existait, mais la CDU fraîchement élue à l'époque l'a en fait tuée, affirme la journaliste Rachel Knabel. Elle est co-auteure de l'article du Monde Diplomatique « Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion ».
c'est quelque chose qui a été discuté au tout début, dans les années 90, que on pourrait mettre en place une Treuhand qui redistribuerait le capital aux citoyens. Même un économiste ouest-allemand comme Peter Bofinger avait aussi émis l'idée de transformer les entreprises en sociétés par action et de donner les actions aux citoyens est-allemands qui pourraient revendre après 5 ans. IG Metall voulait redistribuer le capital des entreprises aux salariés et garder un pôle d'entreprise publique. Ensuite, il y a eu des élections où la CDU a gagné, le traité d'union monétaire, l'union monétaire début juillet. Et la deuxième Treuhand qui a été créée par une loi, là, s'est complètement éloignée de cette possibilité-là de distribuer du capital aux Est-Allemands. Là, le cahier des charges, c'était de privatiser et le plus vite possible.
Et l'ancienne Allemagne de l'Est en paye encore le prix avec une constante d'inégalité de 20% par rapport à l'Allemagne de l'Ouest.
20% Tiffaine, de différence dans le traitement lié à la vie professionnelle, c'est-à-dire rémunération, productivité et allocation chômage, selon le centre économique IWH de Halle. Malgré certains pôles d'attractivité sur les quatre Länder de l'Est comme la Saxe ou la Thuringe de plus au sud, eh bien c'est vrai que les inégalités restent fortes. 464, rendez-vous compte, des 500 plus grandes entreprises sont situées à l'Ouest. Rachel Knabel.
En 2015, on a recommencé à en parler déjà parce que il y a eu déjà les commémorations des 25 ans de la réunification, donc des 25 ans de la Treuhand. Schäuble, à l'époque, avait même émis l'idée d'utiliser le modèle pour la Grèce, ce qui avait fait énormément débat. Et aujourd'hui, évidemment, les commémorations, 30 ans de la chute du mur, remettent ça sur le devant de la scène et en débat. Aussi parce que la situation en Allemagne de l'Est n'est pas très bonne. Alors tous les ans, le rapport qui sort tous les ans sur la situation de l'unification allemande vante les progrès, le rattrapage économique en Allemagne de l'Est. C'est vrai que le chômage a beaucoup baissé, qu'on est loin des taux à près de 19% du milieu des années 2000. Aujourd'hui, c'est 6%. C'est toujours plus qu'en Allemagne de l'Ouest, mais c'est vrai que c'est relativement peu. Mais le PIB par habitant est toujours seulement 3/4 de celui de l'Ouest. Les salaires bruts mensuels moyens, toujours à 600 euros en moins. Et le vote AfD, parti d'extrême droite, est extrêmement élevé et s'installe vraiment dans les régions. Et évidemment, ça joue sur le débat aujourd'hui sur qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi l'Allemagne de l'Est est dans cette situation.
On passe au bref. L'Allemagne toujours sous pression de plus en plus forte pour participer à une relance budgétaire européenne.
Avec les propos du président français d'Indy Economist jeudi dernier qui qualifiait les Allemands, je cite, de grands gagnants de la zone euro, y compris avec ses dysfonctionnements, c'est-à-dire le pacte de stabilité budgétaire et le budget européen qui doit être équivalent à 1% des PIB nationaux. Des débats d'un autre siècle, balaie Emmanuel Macron en réponse à Angela Merkel qui souhaite rediscuter la contribution budgétaire de l'Allemagne en raison du Brexit prévisible. Le président français, lui, veut du stimulus budgétaire, ce sont ses mots, et le Conseil Affaires économiques et financières vendredi risque d'être houleux.
Des rumeurs, des indices et encore des rumeurs. Ce devait être aujourd'hui le lancement officiel de la monnaie virtuelle chinoise, Xavier.
C'était en tout cas la dernière date supposée par les médias chinois en raison de la fête des célibataires, aujourd'hui une des plus grandes opérations commerciales du pays. En fait, rien, pas plus que sur la nature de cette monnaie, crypto-monnaie pour supporter les achats en ligne ou blockchain, véritable monnaie virtuelle, on ne sait pas. Selon d'autres médias, le blockchain serait trop faible pour les plus de 300 000 opérations secondes que prévoient les autorités chinoises. Une chose est sûre, Pékin vient d'autoriser en fin de semaine dernière les entreprises chinoises à pratiquer le mining, c'est-à-dire à faire tourner des ordinateurs pour générer des bitcoins, et veut mettre en place apparemment toute une filière financière, logicielle et matérielle.
Look at them shakes, made up a dance. How come you shook? And I ain't took out my hands. Beans, star, bucks, star, struck. Bitch coming soon. That's cause you suck. That's coming soon. My chains, I've been
On se quitte avec le dernier titre de Frank Ocean, D.H. Hale. Merci beaucoup Marie Brière et Renaud Bouchard de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Demain, alors que le débat sur la réforme des retraites bat son plein, faut-il s'inspirer des fonds de pension à l'américaine? On en parlera avec Sandra Rigaud et Stéphanie Payet. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr, mais aussi en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Got a pack in the DHL.